Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la maladie de Wilson et particulièrement ses aspects neurologiques. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Alexandre Michael Obadia. Docteur Obadia, bonjour.
Bonjour.
Docteur Obadia, vous êtes neurologue, praticien hospitalier au sein de l'unité Mouvements Anormaux du service de neurologie de l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild à Paris, ainsi qu'au sein du centre de référence maladies rares de la maladie de Wilson et des autres maladies rares liées au cuivre situées à Rothschild également. Alors, docteur Obadia, pour débuter notre entretien, quels sont les symptômes neurologiques de la maladie de Wilson ?
Alors écoutez, les symptômes neurologiques de la maladie de Wilson, ils sont variés parce qu'en fait, ça dépend de l'atteinte en fait anatomique du cuivre où il se dépose. Mais en fait, le plus souvent, c'est des mouvements anormaux qu'on peut avoir. Ça peut être des dystonies, ça veut dire des contractions anormales musculaires qui peuvent toucher n'importe quel membre. Ça peut toucher aussi la face et le visage et aussi le cou. Il peut y avoir aussi des syndromes extrapyramidaux, des syndromes parkinsoniens et également des tremblements. Donc soit parkinsoniens, mais également cérébelleux. Après, il y a d'autres atteintes classiques entre guillemets du Wilson qui sont l'atteinte articulatoire avec la dysarthrie, des troubles de l'écriture, et il y a également souvent des troubles de la marche et de l'équilibre. Après, on peut avoir d'autres mouvements anormaux un peu plus rares, mais qui existent aussi, qui sont décrits comme les stéréotypies ou la chorée, qui doivent faire évoquer ce diagnostic. Et enfin, on voit souvent des troubles cognitifs, notamment attentionnels, chez ces patients.
Et quelle est l'importance de ces formes neurologiques au sein de la maladie de Wilson ?
Alors, la prévalence, c'est comme c'est une maladie rare, elle n'est pas précise, mais selon, par exemple, on a un registre national Wilson sur plus de 30 ans de recul. On estime que c'est environ 35% des formes de la maladie, 45% des autres formes étant hépatiques, qui est l'atteinte principale de cette maladie, et 20% des patients sont diagnostiqués sur un screening, ça veut dire le dépistage familial des cas malades, et donc ils sont à une phase qu'on dit présymptomatique.
Donc des symptômes assez importants. Comment surviennent ces symptômes neurologiques ? Quelle est leur physiopathologie ?
Alors là aussi c'est compliqué parce que la survenue des symptômes est variable et la physiopathologie, en gros ce qui se passe c'est que d'abord le cuivre s'accumule dans le foie puisque le gène de l'ATP7B qui normalement décuprifie le foie, enlève le cuivre dans les voies biliaires, s'accumule et donc quand il déborde le foie, ce cuivre libre, toxique va aller dans l'organisme et se déposer dans d'autres organes, dont le cerveau. Au passage, il se dépose également dans l'œil, ce qui donne une atteinte classique qui s'appelle l'anneau de Kaiser-Fleischer. Et donc, c'est un reflet de la surcharge extra-hépatique. Et donc, dans le cerveau, il s'accumule à différents endroits, et notamment les noyaux gris centraux, ce qui est donc responsable notamment des syndromes parkinsoniens extra-pyramidaux et des mouvements anormaux dystoniques, mais également dans d'autres structures comme le tronc cérébral, notamment le mésencéphale, et parfois dans les pédoncules cérébelleux. Donc, il peut y avoir ces différentes atteintes en fonction de la localisation anatomique de ces dépôts de cuivre, qui normalement, en bonne partie, s'enlèvent progressivement avec le traitement, mais ça prend du temps. Et il est à noter également qu'il peut y avoir une accumulation de fer au niveau du cerveau, mais bon, ça c'est une atteinte secondaire.
Au-delà de ces symptômes neurologiques, docteur Obadia, est-ce qu'on peut retrouver des signes psychiatriques de la maladie si le cerveau est atteint ?
Oui, tout à fait. Et ça, c'est très important parce que c'est quelque chose qui retarde considérablement le diagnostic. Parce que c'est des patients jeunes qui font des troubles psychiatriques. Alors, le plus souvent, c'est des troubles bipolaires. Ça peut être juste une dépression, mais résistante au traitement, de la schizophrénie. Il peut y avoir des troubles du comportement. Et donc, c'est des troubles psychiatriques qui souvent retardent le diagnostic puisque on a plus de un an de délai de diagnostic depuis le début des symptômes, ce qui fait que ça retarde la prise en charge. Donc, oui, il est très important de sensibiliser les praticiens à cette atteinte psychiatrique qui peut masquer faire passer au second plan l'atteinte hépatique et neurologique et qui peut être parfois isolée.
Pour conclure notre entretien, docteur Obadia, comment prendre en charge ces aspects neuropsychiatriques de la maladie de Wilson ?
Alors, c'est une prise en charge qui est complexe, puisque c'est une maladie rare, et surtout, elle est pluridisciplinaire. En premier lieu, il y a surtout une prise en charge médicale, puisque nous intervenons au niveau du traitement, puisque c'est une des rares maladies génétiques qui se traite, puisqu'il existe deux types de traitements pour cela, des traitements chélateurs du cuivre, ça veut dire qu'ils vont venir attraper le cuivre dans l'organisme et l'éliminer dans les urines, et l'autre traitement qui existe, c'est les sels de zinc, qui empêchent l'absorption digestive du cuivre. Donc ça, c'est une prise en charge médicale. On associe également d'autres mesures paramédicales, avec notamment, on leur fait suivre un régime pauvre en cuivre au niveau de l'alimentation, qu'on peut retrouver par exemple dans les fruits de mer, dans les abats, le foie, donc voilà, le chocolat aussi. Et donc, il y a toute une prise en charge paramédicale autour de ça, notamment sur l'aspect psychiatrique. Il y a un suivi psychiatrique avec des traitements adaptés qu'on met en place et qu'on adapte en fonction du patient. Ces patients, notamment, supportent mal les neuroleptiques, puisque ça donne des syndromes extrapyramidaux. Donc, il faut les éviter. Il y a d'autres traitements particuliers. On leur fait un soutien psychologique. Et puis, il y a toute une prise en charge rééducative avec des kinésithérapeutes, des orthophonistes. Voilà. Donc, c'est vraiment une prise en charge qui est complexe et multidisciplinaire. Et c'est pour ça que nous, on a la chance au centre de référence à Paris d'avoir cette compétences pluridisciplinaires pour pouvoir prendre en charge ces patients au mieux et donc effectivement adapter le traitement de façon individualisée et adaptée. Bien sûr, il y a une surveillance qu'on fait régulièrement aussi en clinique, mais aussi radiologique avec l'échographie du foie au moins une fois par an et biologique avec le bilan du cuivre qu'on fait très régulièrement pour adapter le traitement en fonction de l'évolution de ce bilan. Et donc, ces patients-là, on les suit à vie. Hein. Donc, il faut vraiment s'attacher à l'observance thérapeutique qui peut être difficile chez ces patients. Et puis, on les fait dépister au niveau familial également, dès que c'est le cas sur les apparentés du premier degré.
Eh bien, merci mille fois, docteur Obadia, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la maladie de Wilson. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.